It's 1,000 leagues from here to the wall. And winter is coming.
George R.R. Martin a dit « Un lecteur vit un millier de vies avant de mourir. Celui qui ne lit pas n'en vit qu'une. »
Find my dragons.
There is only one god.
You know nothing, Jon Snow.
Is dead.
Kill them all!
Winter is coming.
I am Eddard Stark, Lord of Winterfell, and Hand of the King.
Avant d'attaquer avec l'avidité qu'on imagine l'ultime saison de cette chanson de glace et de feu, le titre en version originale de la série de romans imaginée par George R.R. Martin, rembobinons un peu. Encore un peu. Pour revenir aux origines, avant de savoir qui aura l'insigne privilège de s'asseoir sur le trône de fer, ce qui, ne nous le cachons pas, semble moyennement confortable tant sur le plan ergonomique que sur l'énergie à déployer avant d'y arriver, revenons aujourd'hui sur l'origine de la saga, des romans à l'écran.
When my dragons are grown, we will take back what was stolen from me and destroy those who have wronged me. We will lay waste to armies and burn cities to the ground. Turn us away. And we will burn you first.
Charlotte Bloom, vous êtes journaliste spécialisée série pour la chaîne OCS. Votre mission, si vous l'acceptez, est de tenter de me délimiter les forces en présence. Qui sont ces familles? Quelles sont leurs spécificités? Et quels enjeux présentent-elles dans le cadre d'une adaptation télé?
Alors, pour simplifier un peu les choses, parce que c'est pas évident, il y a du monde dans cette série. Disons qu'on est parti avec 9 familles il y a 10 ans. Et aujourd'hui, je dirais qu'il y en a 3,5.
À peu près.
Les 9 familles, c'est les Lannister, les Stark, les Baratheon, les Targaryen, les Tyrell, les Greyjoy, les Martell, les Tully, les Arryn. Et ceux qui restent, les Stark, les chouchous de tout le monde. Donc la moitié a été décimée, en tout cas les parents. Il reste les enfants, donc Jon Snow, Miss Stark, Miss Targaryen. Une lignée un peu étrange, le bâtard de service. On a Sansa et Arya, les petites sœurs. Et puis sinon, tout le monde est mort. Ned, le père, Catelyn, la mère, les frères Rob, Rickon. Ah non, et il reste Brandon, alias Bran, le clairvoyant. On va l'appeler comme ça. On a les Targaryen, donc la famille de Daenerys, qui était un peu la petite femme fragile au début de la série, vendue par son frère pour accéder au pouvoir, qui finalement est la grande badass de la série et qui se trouve être la tante de Jon Snow, qui est chez les Stark. C'est compliqué, mais on y arrive. Et les Lannister, un peu les grands méchants de Game of Thrones, les ennemis jurés des Targaryen, avec une fratrie, Cersei et son frère jumeau, Jaime, qui est aussi son amoureux, tout à fait normal. Et le petit frère Tyrion, qui est détesté par sa grande sœur parce que, un, c'est un nain et qu'elle n'aime pas les gens différents, et deux, parce que la mère est morte en couche quand elle l'a eu. 3 familles et demie.
You're Tyrion Lannister, the Queen's brother?
My greatest accomplishment. And you, you're Ned Stark's bastard, aren't you?
Lord Eddard Stark is my father.
And Lady Stark is not your mother, making you a bastard.
Pour ce qui est du territoire où se déroule la majeure partie de l'action.
Alors, on va
des
dire
actions, pour être
des
précis.
Actions. On va dire c'est un double territoire. Westeros à l'ouest, Essos à l'est. Donc Westeros, en gros, c'est vertical. Et Essos, c'est horizontal. Et au milieu, il y a un détroit, il y a la mer. Donc, Westeros, c'est le coin des îles de Fer, de Dorne, de Winterfell, de Port-Réal, de Castle Rock, des endroits un peu iconiques de toutes ces batailles. C'est l'endroit où vivent, par exemple, les Stark, c'est l'endroit où vivent les Lannister. Et de l'autre côté, on a les cités libres, la baie du dragon Meereen, qui est maintenant le territoire de Daenerys. Au milieu de la mer, George Martin, l'auteur, dit que, en gros, Westeros fait à peu près la surface de l'Amérique du Sud avec 20 millions d'habitants et que Essos est 2 fois plus grand que Westeros. Évidemment, vu qu'il se déplace à pied ou à cheval, ça met du temps. Suivant les saisons, parce qu'en saison 7, on avance beaucoup plus vite qu'en saison 1.
C'est vrai. Le slogan du diffuseur HBO a longtemps été « It's not TV, it's HBO ». Est-ce un hasard si la saga a débarqué sur cette chaîne précisément?
C'était la maison parfaite, en fait, pour Game of Thrones, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que HBO, historiquement, c'est la chaîne qui ose. On rappelle quand même que le premier drama de cette chaîne, c'était Oz. La ouais. chaîne qui ose.
Exactement.
Donc c'est en gros des hommes en prison, des gens avec les yeux crevés, des gens crucifiés, des gens aux membres brisés, des gens brûlés vifs. Donc bon, ça nous rappelle un petit peu Game of Thrones. C'est aussi la chaîne des Sopranos. Donc c'est la chaîne des séries intelligentes, des énormes castes. Et puis c'est celle qui a un peu brisé les codes de la série moderne. Aujourd'hui, on a plein de plateformes et on a plein de chaînes. Mais en tout cas, à l'époque et il y a encore 10 ans, HBO, elle était unique et c'était la maison idéale. Et c'est aussi la maison de la liberté narrative. Alors, il y a du bien, il y a du moins bien, mais c'est vrai que la nudité, ça passe crème, la vulgarité, ça passe, la violence, ça passe. Et pour écrire cette série-là, on pouvait pas aller sur un network qui allait censurer sans cesse et arriver avec des personnages incestueux, des bébés égorgés, etc. C'était pas possible. Donc oui, c'était la maison idéale.
We have no execution in the Eyrie. Life is more elegant here. Open the moon door.
Un mot de l'équipe et du cast mis en place.
Alors
la
le
série.
Très bizarre en fait sur Game of Thrones, c'est que les deux showrunners, donc D.B. Weiss, Daniel Weiss et David Benioff, que les gens appellent les Double D's, c'était des gens qui n'avaient rien fait. En fait, avant de s'attaquer à ce projet surréaliste, tous les projets qu'ils avaient mis en branle, en fait, c'est des amoureux de littérature qui se sont rencontrés sur des études de littérature. Tous les scénarios qu'ils ont écrits sont tombés à l'eau. Il ne s'est littéralement rien passé jusqu'à Game of Thrones. La raison pour laquelle ils ont chopé ce projet que tout le monde essayait d'avoir pour faire des films, c'est parce que ils ont été interrogés par l'auteur George Martin, qui leur a posé une colle qui était « Alors c'est qui la mère de Jon Snow ?» Bon, nous, on le sait depuis 1 an, mais eux, ils le savaient déjà il y a 10 ans. Ils avaient compris en lisant les romans, alors que l'info n'était pas encore tombée. Et c'est comme ça qu'ils ont chopé ce projet. C'est en connaissant l'affaire. Et c'est aussi en expliquant que, bah oui, cette série, ce récit méritait de la place, des épisodes, des saisons, de s'étendre, et que non, ça n'allait pas être un film.
Non ! Non ! Vous ne pouvez pas me toucher ! Je suis le dragon ! Je suis le dragon ! I won my crown. Ah!
Les showrunners écrivent avec 3 scénaristes qui, franchement, sont invités de temps en temps à donner un coup de main. Et c'est pas des grands scénaristes, hein, c'est des petits noms qu'on ne connaît pas, parmi lesquels uniquement 2 femmes. À côté de ça, on a 19 réalisateurs, dont, attention, une femme, Michelle MacLaren. C'est une catastrophe. Donc ça, c'est l'équipe qui fabrique cette série, donc une équipe principalement masculine, ce qui va nous amener à plein de petits problèmes sur la représentation de la femme, même s'ils finissent par se rattraper. Il faut savoir qu'un réalisateur, il gère une équipe de 900 personnes, donc imaginez le bazar que c'est d'organiser cette série. Donc ça, c'est pour le crew. Et puis pour le cast, un choix qui est compréhensible aujourd'hui, des acteurs inconnus, à part quelques petites légendes anglaises, parce que c'est un casque qui est principalement anglais pour une série américaine. Donc on va avoir Charles Dance, on va avoir Diana Rigg, on va avoir Sean Bean, un acteur, la star de la saison 1, qui meurt à la fin de la saison 1. Donc en gros, on s'est payé une grosse resta pour finalement le tuer. Pourquoi pas, on aurait pu le caster dans un autre rôle. Hein. Mais en tout cas, le but, c'était de faire croire aux gens que cette histoire existe. Et la meilleure façon de le faire, c'est de prendre des gens qu'on connaît pas. Et aujourd'hui, quand on se mate la saison 1, c'est des bébés, en fait, les acteurs de Game of Thrones.
Maisie Williams en tête.
Maisie Williams, mais elle avait quel âge? Elle avait 7 ans, cette pauvre gamine. Ils lui ont fait vivre les pires choses. Et aujourd'hui, ce sont des énormes stars. Est-ce que ça va tenir? L'année prochaine, quand on n'aura plus Game of Thrones, on verra. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce sont les visages les plus connus de la télé. Les Kit Harington, Jon Snow, les Emilia Clarke pour Daenerys. C'était personne et c'est devenu les plus grandes stars planétaires.
Quel est ce mystérieux hiver dont on ne cesse de nous annoncer qu'il va arriver et qui donne son titre au tout premier épisode?
Winter is coming. L'hiver vient. Alors, il y a plusieurs significations. Alors, tu as la petite signification anecdotique qui est que George Martin, quand il était jeune, il était étudiant en journalisme à Chicago et qu'il a vécu un hiver horrible et que ça l'a marqué et qu'il y repense et qu'il s'est pris un bon hiver qui arrive dans sa tronche. Il y a le fait surtout que cette devise, c'est la devise des Stark qui habitent à Winterfell, donc qui habitent là où il fait froid, là où c'est l'hiver permanent, et que il y a un dérèglement climatique dans le monde créé par George Martin, comme dans le nôtre, et que les hivers sont de plus en plus longs. Les hivers peuvent durer des années au moment où nous, on découvre cette histoire. Et quand on dit que l'hiver arrive, ça veut dire qu'on va en chier, en gros. On va souffrir. Après, il y a un dialogue qui était dans la première saison. T'avais Robert Baratheon qui parlait à Ned Stark et qui lui disait « Une guerre approche, je ne sais quand ni qui combattra, mais elle approche. » Et aujourd'hui, avec du recul, 10 ans plus tard, on peut se dire que cette guerre, c'est l'arrivée des marcheurs blancs. La grande menace qui fait que bah, toutes les petites guéguerres anciennes sont en train de se tasser parce qu'il faut s'allier pour gagner. Et que l'hiver, c'est l'arrivée de ces marcheurs glacés, gelés, qui viennent envahir ce monde. Et la dernière petite signification, ça c'est récent et c'est la version politisée de George Martin qui la donne, c'est l'élection de Trump, qui a été la tempête qui s'est abattue sur l'Amérique. L'hiver est arrivé.
The Iron Throne is mine and I will take it.
King in the North. King in the North.
I am Queen Regent, not some broodmare.
You're my daughter!
The Iron Throne is mine.
Winter is almost upon us.
Three blasts.
Run!
Christophe Germier, vous êtes membre de la Garde de Nuit, communauté francophone dédiée au Trône de Fer de George R.R. Martin. 5 romans parus depuis 96. Alors, défi, dès la première question, quelles en sont les 3 intrigues principales? Ah, je vous ai dit, c'est un défi.
Alors, les 3 intrigues principales, on pourrait la définir en 3 pôles, c'est des pôles géographiques. Mmh. D'un côté, on a les intrigues de cour à Port-Réal qui ont occupé le devant de la scène quand même pendant une bonne partie des romans. L'intrigue sur le mur, avec une menace au-delà du mur, donc au nord du pays. Et puis, la troisième partie, bah, ce serait l'intrigue qui est sur le continent d'à côté, du coup, où on suit le retour de Daenerys Targaryen pour reprendre son trône qui, a priori, est dans la capitale, donc va rejoindre une des 2 intrigues qui rejoindra peut-être même encore une autre intrigue et tout ça sera bouclé.
Et alors, je vous mets par la même occasion au défi de nous expliquer les forces en présence. Parce que c'est un peu le nerf de la guerre hein, dans la saga.
Ouais, alors les forces en présence, il y a, on va dire, une multitude de petites forces qui convergent vers des plus grosses forces. Donc, on va retrouver plusieurs maisons qui vont s'affronter sur le terrain politique. Et d'un autre côté, on a aussi des éléments surnaturels, puisqu'on est dans un univers où les gens ne croient plus vraiment au surnaturel. Les dragons, ça fait longtemps que c'est fini, mais ça revient. Les forces surnaturelles au-delà du mur, ça fait longtemps que c'est fini, mais ça revient. Et donc, ils vont être confrontés à ces aspects-là aussi, qui sont des dimensions que les hommes avaient oubliées.
Qu'est-ce que vous avez pensé du passage des romans à la télé ?
À titre personnel, j'ai beaucoup aimé les premières saisons. Et chemin faisant, j'ai été un peu déçu par la suite, en fait. À partir de la saison 4-5, je considère que ça se délite un peu.
Hear my words and bear witness to my vow. Night gathers and now my watch begins. It shall not end until my death. I shall take no wife, hold no lands, father no children. I shall wear no crowns and win no glory. I shall live and die at my post. I am the sword in the darkness. I am the watcher on the walls.
En fait, le roman de George R.R. Martin essaye de déconstruire les clichés. Et on se retrouve en face d'une série qui finit par leur donner de la valeur et par les créer. Elle devient presque cliché un cliché d'elle-même à la fin, dans les derniers épisodes que, en tout cas, moi j'ai pu voir, que ce soit dans la mise en scène ou dans les choix qui font très blockbuster finalement. On se retrouve en face c'est normal aussi, hein, d'une série à très gros budget avec beaucoup de moyens et du coup qui fait des choix peut-être plus faciles que ce qui aurait pu être fait.
Est-ce que c'est une adaptation fidèle des romans ? Jusqu'à quel point ? Jusqu'à quel moment, en tout cas ?
Dans l'ensemble, ils se débrouillent pas trop mal. Quand même, on peut pas leur enlever ça. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font des choix. On sent que les producteurs aiment beaucoup certaines familles et d'autres moins. Et donc, du coup, les temps d'apparition, la façon dont les intrigues sont menées vont avec, en fait. Ça se ressent un peu. Mais dans l'ensemble, on retrouve quand même, en grande partie, l'esprit du roman, quand même.
Par rapport au roman, qui est mis en avant ?
La famille Lannister est énormément mise en avant par rapport à ce qu'elle est dans les bouquins.
On se demande pourquoi.
Oui, c'est pas du tout des personnages intéressants en plus.
I've had worse, my lady.
Perhaps it's time to go home. The South doesn't seem to agree with you.
I know the truth John Arryn died for.
Do you, Lord Stark? Jaime would have killed him. My brother's worth 1,000 of your friend.
Your brother? Or your lover?
Quelle réaction est-ce que ça a suscité dans la communauté des lecteurs, l'annonce de la série ?
Alors l'annonce, elle a été faite en 2007, donc assez loin finalement de la date de sortie de la série, en 2011. À cette époque-là, parmi les lecteurs, déjà, on pensait encore que la suite des romans allait arriver très vite. Donc c'était, on n'était pas du tout dans le même cas qu'aujourd'hui. Et ça a été reçu, je pense que ça dépendait un peu du caractère de chacun. Moi, je fais partie des gens qui étaient plutôt enthousiastes. Mais il y en a d'autres qui tout de suite ont freiné des cas de fer. Dès les premières images, on dit « Ah non, les costumes, ça va pas. » Donc il y a aussi les puristes, hein, mais bon, dans l'ensemble, ça a été quand même plutôt bien accueilli. Au moins jusqu'à la saison 5. Après la saison 5, il y a encore une fracture qui s'est créée, je pense, parce qu'on quitte ce qu'on savait des romans, on arrive dans une zone qui est plus floue. Je sais pas, je pense que c'est compliqué parce qu'ils ont... Je suis pas sûr qu'ils soient toujours très bons scénaristes, les scénaristes de la série. Et à partir du moment où on quitte le matériau du roman, on sent qu'il y a une petite faiblesse dans l'écriture. Je dirais, après... Tant que les livres sont pas sortis, on peut pas vraiment savoir ce qui a été gardé, pas gardé. Est-ce que ça finira vraiment comme ça ou pas? Ça reste un sujet difficile, en tout cas à essayer de concevoir. Les romans suivants, il y a quelques chapitres qui sont parus. On sait que du dernier roman paru en 2011, donc il y a 8 ans maintenant, on sait qu'il y a des chapitres qui ont été coupés à la fin du roman. Il y a peut-être pas un quart, mais un bon huitième en tout cas de ce qu'avait écrit Martine qui devait être dans le roman de 2011, qui va passer dans le suivant.
D'accord.
On espère voir un jour. Mais dans l'idée, ouais, c'est... Il y a des chapitres qui sont parus, il y a des chapitres qu'il a postés sur son blog. Donc, il y en a même qui ont été traduits en français dans certains magazines, avec le traducteur officiel. Donc, on sait de quoi il va retourner. De toute façon, on va quand même dans les grandes lignes vers l'affrontement qu'on nous promet en saison 7. Voilà. Donc, ça arrivera de toute façon. Parce que c'était dans le plan de base de Martin dès le début. Dès qu'il commence à écrire la saga en 91, il y a même des lettres qu'il a envoyées à son éditeur qu'on a pu avoir puisqu'il a, il les a révélées. Certaines choses étaient très différentes, mais dans l'idée, on s'orientait déjà vers un conflit, les autres au-delà du mur, contre les dragons au sud du mur, en gros, quoi. Donc, oui, on va vers là. Après, de quelle manière? Les chemins seront sans doute différents puisqu'il y a multiplicité d'intrigues qui ont été coupées, pour des raisons, toutes simples, hein. C'est déjà une série qui est énorme en termes de personnages à suivre. Dans l'ensemble, il fallait quand même suivre entre 30 et 40 personnages dès le début, ce qui fait quand même beaucoup. Et là-dessus, la série s'en est pas trop mal tirée, mais à un moment, il a fallu faire des coupes, parce que sans ça, les intrigues se referment jamais. Et c'est le problème auquel a été confronté Martine, justement, sur les volumes 4 et 5 de son œuvre. C'est-à-dire qu'il étend, il étend, il étend, il étend, et puis à un moment, il faut quand même refermer un peu les portes pour pouvoir voir le bout de la saga. Même récemment, il a dit que peut-être ça sera 8, finalement. Ce sera 8 hommes, peut-être pas 7, donc on sait pas. And who are you, the proud lord said, that I must bow so low? Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. And a coat of gold, or a coat of red, a lion still has claws, and mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours.